tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La fusion annoncée dans le ferroviaire entre le français Alstom et l'allemand Siemens. Les syndicats s'inquiètent de la casse sociale en France à moyen terme. Explication d'Anne Lorchouin. Le chef de l'État va exposer tout à l'heure sa vision de l'Europe face aux étudiants à la Sorbonne. Il doit proposer une série de projets ainsi qu'une méthode pour, dit-il, élaborer une feuille de route de l'Union européenne sur une dizaine d'années. Précision avec Stéphane Robert. Un Palestinien tue ce matin par balle trois Israéliens à l'entrée d'une colonie à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. L'assaillant, âgé de 37 ans, était tué, originaire d'un village voisin. Il possédait un permis de travail israélien. On sera en ligne avec Étienne Monin à Jérusalem. Une victoire massive du oui attendu tout à l'heure au référendum d'indépendance au Kurdistan irakien. Bagdad ordonne ce matin le déploiement de l'armée irakienne dans les zones disputées. On va faire le point avec Éric Biegala. Et puis la démission du président du Conseil supérieur des programmes, Michel Lussault, qui accuse le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, de multiplier sans discussion ni concertation les annonces, souvent unilatérale et idéologique. Nous l'entendrons à la fin de cette édition, dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Il constate justement le grand désordre idéologique actuel, le politologue Gaël Brustier, notre invité pour son livre qui paraît aux éditions du Cerf. Avec lui, on va essayer de voir un peu quelles sont les crises de régime actuelles, la crise de régime de nos démocraties. Et il appelle aussi à se forger de nouveaux outils, de nouvelles visions du monde, dont acte à partir de 12h55.
À l'heure où le chef de l'État doit donc exposer sa vision de l'Europe recentrée autour du couple franco-allemand, le groupe allemand Siemens doit annoncer sa fusion avec Alstom, numéro 1 français du ferroviaire. Les conseils d'administration des deux groupes sont actuellement réunis pour cette opération qui va donner naissance donc aux leaders européens du secteur, mais qui pourrait risquer de diluer fortement l'identité d'Alstom. Siemens devrait effectivement détenir 50%, voire plus, dans la nouvelle entreprise. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors d'abord, qu'est-ce qui pousse les deux groupes à fusionner ainsi?
Alors c'est pour atteindre une taille critique qui permettra à ce futur groupe franco-allemand de résister au géant chinois du ferroviaire CRRC, un groupe d'État, le premier constructeur de trains au monde qui affiche un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros et qui est en train de remporter des appels d'offres en Europe, ce qui inquiète donc les constructeurs européens. Pour comparaison, Alstom pèse 7,3 milliards d'euros avec 32 000 salariés. Siemens pèse à peine un peu plus, 7,8 milliards d'euros avec à peine un peu moins de salariés. La fusion des deux serait donc une fusion à 15 milliards d'euros, toujours moitié moins que le chinois, mais cela augmenterait, du moins selon les partisans de la fusion, la compétitivité du futur groupe au niveau européen. L'autorité de la concurrence européenne aura tout de même son mot à dire, puisque le futur groupe, dont vous l'avez dit, la partie allemande serait majoritaire, ce futur groupe donc aura clairement une position dominante sur le marché européen. En tout cas, la bonne santé financière d'Alstom encourage les Allemands à se rapprocher de la France plutôt que du Canadien, Bombardier également sur les rangs. Bref, géographiquement, comme du point de vue des activités d'ailleurs, les deux entités sont plutôt complémentaires.
Alors on va parler tout à l'heure de l'inquiétude des syndicats, mais d'abord écho de quelques réactions politiques ce matin. Réaction à la gauche de la gauche et à droite. Celle d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise, qui sera suivie immédiatement de celle de Nicolas Dupont-Aignan, député souverainiste de l'Essonne.
Très clairement, on cède tous les intérêts français. On a cédé le secteur éolien marin, qui est un secteur stratégique pour une transition écologique, à General Electric. Et maintenant, on cède à Siemens, parce qu'en fait, en réalité, c'est ça. Siemens va être majoritaire. Le secteur ferroviaire, qui est très important, non seulement d'un point de vue du transport, mais aussi d'un point de vue industriel, mais aussi justement en prévision de transition écologique dans lequel la question du transport est prédominante. Donc c'est un grand bardage, une fois de plus, au nom, soi-disant, d'une construction européenne. Mais enfin, les Allemands, eux, connaissent leurs intérêts, et manifestement, nous, on ne connaît pas les nôtres.
C'est un hold-up industriel sans précédent qui livre notre fleuron national Alstom et notre TGV à l'industrie allemande et qui n'est pas un projet européen. Je suis pour un Airbus ferroviaire, oui, mais cela voudrait dire, comme pour Airbus, que c'est sur un principe de partenariat à égalité où les États sont actionnaires avec une minorité de blocage et où il n'y a pas l'absorption d'une entreprise en bonne santé qui a un carnet de commandes et une technologie extraordinaire par une autre entreprise sans débourser un centime. Et ce qui est terrible dans ce hold-up, c'est que vous allez voir que très vite, il y aura des emplois supprimés en France, il y aura un pillage technologique, comme c'est déjà arrivé pour Technip comme c'est déjà arrivé pour Lafarge, comme c'est déjà arrivé pour Alcatel, comme c'est déjà arrivé pour Alstom Energy.
Voilà, Nicolas Dupont-Aignan, après donc Éric Coquerel, tous deux interrogés sur France Info, Anne-Laure Chouin. Donc les pouvoirs publics soutiennent évidemment activement ce rapprochement, les pouvoirs publics français. Ils assurent que l'accord va quand même être équilibré, mais les syndicats s'inquiètent donc de la casse sociale peut-être à moyen terme.
Et pour cause, parce que même si l'on parle d'accord de garantie sur l'emploi à plus ou moins long terme, 4 à 5 ans en l'occurrence, pratiquement tous les précédents de fusion ou de rachat, énumérés d'ailleurs par Nicolas Dupont-Aignan, ont montré que ces promesses, tout comme celles d'un patron français ou du maintien d'un siège en France, ne valaient pas grand-chose sitôt que la bascule sous contrôle étranger était actée. Les syndicats d'Alstom voient quand même dans cette fusion une nécessité, mais une nécessité qui inquiète. Il est incontournable qu'il y ait de la casse à moyen terme, estime par exemple, en le déplorant, la CFE-CGC du groupe. Et puis, il y a les grincements de dents plus politiques, ce qu'on vient d'entendre sur le thème de la perte d'un fleuron industriel français. Et au moment où la France rechigne à laisser partir STX Saint-Nazaire sous contrôle italien, au nom de quoi abandonnerait-elle un autre fleuron, et pas n'importe lequel, le TGV Made in France. On va donc scruter attentivement si oui ou non, l'État français abandonnera sa part du capital dans l'opération.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin, et on salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, le politologue Gaël Brustier. Bonjour.
Bonjour.
Face à la concurrence chinoise, donc l'Europe industrielle avance, est contrainte de se rapprocher. Est-ce qu'elle le fait, selon vous, seulement au profit du pays le plus puissant, l'Allemagne?
J'ai l'impression que, en fait, dans l'idéal, faire l'Europe et faire l'Europe industrielle ne s'oppose pas à avoir une politique industrielle. Et ce qui fait défaut aujourd'hui en France, mais depuis 30 ans en fait, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle en France, on le voit très bien. La plupart des dirigeants de ces grandes entreprises sont souvent des gens qui sont des hauts fonctionnaires, mais nullement des industriels, c'est-à-dire des gens capables de développer un projet industriel. Ce qui fait pas défaut du tout à Siemens, c'est pour ça que le mariage des deux est de toute façon gagnant pour les logiques de Siemens, pour sa vision industrielle et pour les intérêts qui lui sont liés, plutôt que pour nous, c'est parce que il y a véritablement plus de vision en France. Mais c'est le cas avec Alstom, mais ça a été le cas avec Giat, entreprise normalement il y a une quinzaine d'années, qui a été démantibulée au nom simplement de critères purement financiers. C'est-à-dire qu'on avait placé là quelqu'un qui avait une vision purement financière des choses, mais pas du tout industrielle, et qui a démantibulé. L'industrie armement est un truc un peu complexe, mais toutes les usines ont été démantibulées, intégrées à d'autres groupes, etc. Je serais d'ailleurs bien curieux de voir l'état des choses aujourd'hui.
Gaël Brustier, merci beaucoup. Pas de projet industriel, mais peut-être un projet politique pour l'Europe, puisque dans un peu plus de 2 heures, le chef de l'État va exposer devant les étudiants à la Sorbonne sa vision de l'Europe. C'est un discours qui est annoncé depuis longtemps pour après les élections allemandes. Nous y sommes, et malgré les résultats du scrutin qui compliquent un peu la tâche de convaincre Berlin de faire cette Union européenne renforcée, l'Élysée faisait savoir hier que le président n'adaptait pas sa vision profonde aux circonstances, donc son discours n'aurait pas été changé. Il doit proposer une série de projets clés, mais surtout une méthode pour élaborer une feuille de route de l'Union européenne sur une dizaine d'années. C'est un très vaste programme, Stéphane Robert.
Oui, on connaît déjà en partie le projet européen d'Emmanuel Macron. Il a commencé à en dresser les contours à l'occasion d'un discours donné à Athènes le 8 septembre dernier. Il va donc préciser ses propositions cet après-midi depuis la Sorbonne. Et si l'on en croit, vous le disiez, les messages qui arrivent de l'Élysée depuis dimanche, rien n'a changé. On reste dans la même tonalité, avec déjà ce constat que l'Europe en l'état à 27 et avec un processus de décision à l'unanimité, ça ne marche pas, ça n'avance pas, qu'elle est trop bureaucratique, trop éloignée des citoyens, bref, qu'il faut changer tout ça, la faire évoluer et relancer le processus européen. Alors comment fait-il ? La grande idée d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne faut pas discuter de tout en même temps et avec tout le monde, mais prendre les thématiques une par une, le numérique, la défense, le problème des travailleurs détachés. Et les pays qui veulent avancer ensemble en fonction de telle ou telle thématique se mettent d'accord en se passant de l'accord et de l'avis des autres. Par exemple, on est d'accord avec la Pologne pour faire avancer l'Europe de la défense. Eh bien, on passe un accord avec la Pologne et on développe des programmes communs et on se passe des autres pour pouvoir avancer. En revanche, on n'est pas d'accord avec la Pologne sur la question des travailleurs détachés. Tant pis, on passe des accords avec ceux qui ont la même vision que nous et les autres suivront un peu plus tard quand ils verront que ça marche. C'est comme ça qu'il entend déverrouiller l'Europe. Et pour ce qui concerne les questions économiques, Macron veut faire avancer les pays qui ont déjà réussi à se mettre d'accord sur une monnaie commune, l'euro, en créant une sorte de gouvernance politico-économique avec un parlement de la zone euro, un ministre de la zone euro responsable devant ce parlement et un budget commun pour commencer à mettre en place une vraie politique commune. Voilà le tableau, en avant-toute, par petites touches, à 3 pays sur cette question-là, à 5 sur celle-ci, à 19 sur telle autre. L'idée étant que d'ici 10 ans, on aura réussi à développer de vraies politiques en commun, et donc qu'on aura une Europe plus forte, plus soudée face à la mondialisation.
Ça paraît assez pragmatique en effet, mais il y a déjà de très sérieux obstacles qui sont dressés sur cette route de la réforme Macron.
Oui, déjà on l'a vu la semaine dernière avec le discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Discours qui était une véritable charge anti-Macron. Un parlement de la zone euro, pas question, a-t-il dit. Il existe déjà, c'est le Parlement européen. Un ministre de la zone euro, mais enfin, quelle idée, tout ça fonctionne très bien avec l'Eurogroupe. Bref, circuler, il n'y a rien à voir, lui a dit Macron. L'Europe, c'est à 27 qu'elle avance, ou bien pas du tout. Et le résultat des élections allemandes dimanche a encore compliqué la donne pour Emmanuel Macron, car Angela Merkel, affaiblie, va sans doute devoir s'allier avec les libéraux du FDP, qui ont fait du plan Macron pour l'Europe une ligne rouge infranchissable. Eh bien, qu'à cela ne tienne, devrait nous dire le président de la République cet après-midi. C'est sa vision qui est la bonne et il va essayer de convaincre. Comment ? Ça, c'est toute la question, car les montagnes qui se dressent aujourd'hui entre lui et sa vision pour l'Europe obscurcissent sacrément le paysage.
Stéphane Robert, merci beaucoup. Le mouvement d'action contre la réforme du Code du travail lancé hier par les syndicats CGT Force ouvrière se poursuivait ce matin selon la CGT Transport. Il y aurait une quinzaine encore de points d'action au péage autoroutier dans les zones logistiques et dans certains dépôts de carburant. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, recevra après-demain jeudi l'ensemble des syndicats, des routiers et les représentants des organisations patronales.
Midi 41 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine Mercier. Le Conseil de l'Europe dénonce les conditions de détention des migrants qu'il juge inacceptables. Cellules crasseuses et surpeuplées, manque de nourriture et d'eau potable, violences policières. Dans son rapport, le Conseil de l'Europe évoque les conditions d'accueil de milliers de migrants placés dans des centres de rétention en Grèce.
Et oui, on est en ligne pour en parler avec Angélique Kourounis, notre correspondante à Athènes. Bonjour.
Bonjour.
Ah, il se trouve que vous êtes allé, vous, récemment, dans ces camps de rétention et que, malheureusement, vous confirmez le rapport, ce qui est dit dans ce rapport du Conseil de l'Europe.
Oui, absolument. Dans les plusieurs camps que j'ai eu l'occasion de visiter pour faire des reportages, j'ai vu qu'il y avait des enfants qui étaient détenus avec des adultes dans des conditions absolument sordides, avec des chaleurs dépassant les 40 degrés. J'ai vu également beaucoup de cellules où les gens s'entassaient à 7, alors que les cellules sont prévues pour 2, où là, le rapport parle de cellules où les gens s'entassent à plus de 42 dans un conteneur d'environ 50 mètres carrés. Il est absolument... Ce qui se passe en Grèce, et selon ces experts, absolument inadmissible, c'est dénoncé depuis plusieurs mois par les ONG. Et le pire, en fait, dans cette situation, c'est que ce qui se passe en Grèce n'est pas prévu à un manque d'argent, puisque la Grèce reçoit des fonds européens pour faire face à cette situation, mais c'est dû à un manque de coordination et manifestement à un manque de compétences de la part des autorités grecques.
Est-ce qu'actuellement, on a une idée sur le nombre d'arrivées de ces migrants ?
Eh bien, actuellement, alors que lorsqu'il y a eu la signature entre l'Union européenne et la Turquie, les arrivées avaient pratiquement été stoppées. On était passé à plus de environ 3000 par jour sur toute la Grèce à moins de 10. Maintenant, de nouveau, depuis quelques mois, quelques semaines, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent. On parle environ de 100 arrivées par jour et c'est un chiffre constant qui est de plus en plus important. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que suite à cet accord qui a été signé avec la Turquie, eh bien, la Grèce n'a pas le droit d'envoyer ces migrants vers le continent où ils pourraient être mis dans des meilleures conditions que dans celles du camp de Moria qui sont vraiment effroyables. Et le problème, c'est que la Grèce demande à pouvoir envoyer les migrants sur le continent et pour l'instant, on lui refuse ce droit-là et les conditions sont absolument épouvantables. Le rapport le dit, les ONG sur place le disent, mais encore une fois, j'insiste, il semblerait que ce soit une volonté délibérée.
Angélique Kourounis, en direct d'Athènes. Merci. En Cisjordanie, un Palestinien armé d'un pistolet tue ce matin 3 Israéliens. C'est à l'entrée d'une colonie à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Il y a un quatrième personne qui a été transportée à l'hôpital dans un état grave. L'assaillant a été tué. Il a 37 ans, originaire d'un village voisin et il possédait un permis de travail israélien dont l'obtention, on le sait, requiert de stricts contrôles. On est en ligne avec Étienne Monin. Bonjour.
Bonjour.
Évidemment, cette attaque a suscité chez les Israéliens la crainte d'un nouvel accès de violence qui coïnciderait donc avec les grandes fêtes juives.
Oui, parce qu'on est au milieu de ces fêtes à 3 jours de Yom Kippour, à 1 semaine de Soukhot, et parce que le climat reste volatile. La région est sortie du rythme intense des attaques au couteau d'il y a 2 ans, mais les violences restent ponctuelles et dévastatrices. Fin juillet, 3 Israéliens avaient été assassinés, déjà dans une colonie, après la mort de 3 Palestiniens dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Sur le plan politique, comme souvent, cette attaque crispe les positions. On est dans un moment où l'Amérique investit dans la reprise des pourparlers. Le représentant spécial de Donald Trump vient d'arriver dans la région et les déclarations depuis ce matin ressemblent à un pas en arrière. Le ministre de la Défense attaque l'autorité palestinienne. Le ministre de la Sécurité intérieure affirme qu'on est dans un conflit religieux, pas un conflit territorial. La vice-ministre des Affaires étrangères, connue pour ses positions radicales, déclare qu'on ne négocie pas avec les assassins. Et le premier ministre demande au président palestinien de condamner cette attaque. L'auteur a agi seul. Il a utilisé un pistolet. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'est avancé ce matin avec les travailleurs palestiniens. Il avait lui-même un permis de travail dans cette colonie. Son comportement a attiré l'attention des services de sécurité. Il a alors tiré. Il a tué un policier et 2 agents de sécurité avant d'être abattu. Cette attaque arrive aussi au moment où le Hamas et l'autorité palestinienne tentent un rapprochement. Le Hamas qui a ce matin salué cette attaque.
Étienne Monin à Jérusalem, merci.
Dans l'attente des résultats du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien, une très forte majorité de oui devrait se dégager. La tension est encore montée avec Bagdad.
Oui, le gouvernement irakien qui ordonne le déploiement de l'armée dans les zones qui sont disputées entre le pouvoir central et la région actuellement autonome. Or, ces zones sont actuellement contrôlées, Eric Begala, par les Peshmerga kurdes.
Oui, pour le moment, on en est encore aux paroles, aux annonces. Les gestes concrets n'ont pas suivi, mais la décision hier du Parlement de Bagdad d'envoyer l'armée irakienne dans les territoires disputés du Kurdistan pourrait bien faire complètement déraper les choses. Le gouvernement d'Haïdar al-Abadi à Bagdad est obligé par la constitution irakienne de mettre en œuvre cette injonction parlementaire. Les territoires disputés, ce sont une 15aine de districts qui sont revendiqués par les Kurdes comme devant faire partie du Kurdistan, mais qui n'avaient pas été intégrés dans les limites du gouvernement régional du Kurdistan établi après 2003. Leur population est mixte, souvent majoritairement kurde, mais pas toujours. Sauf qu'en 2014, suite aux attaques de l'État islamique dans ces zones et à la fuite de l'armée irakienne qui y était cantonnée, les Peshmerga kurdes ont occupé la plupart de ces territoires. Le plus important, c'est la ville de Kirkuk, aujourd'hui donc contrôlée par les Kurdes, de même que la moitié nord de la province éponyme. Dans cette zone se trouvent aussi environ 25% des ressources pétrolières de l'Irak. Et c'est donc là, dans ces districts, lesquels ont pris part au référendum d'hier, que l'armée de Bagdad a reçu la consigne de se déployer. Elle ne l'a pas encore fait et n'est pas forcément en mesure de le faire, occupée qu'elle est par ses opérations contre l'État islamique. Mais justement, l'une de ces opérations se déroule dans la province de Kirkuk, à 50aine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Kirkuk. Les forces irakiennes conduisent depuis quelques jours une vaste offensive pour réduire la poche d'Aouidja, l'un des derniers réduits djihadistes en Irak. Il n'est pas impossible qu'une fois Aouidja reprise, ces unités irakiennes fassent mouvement vers Kirkuk, se retrouvant en position frontale avec les avec les Peshmerga kurdes. Et à vrai dire, pareille confrontation s'est déjà produite par le passé. En 2012, Peshmerga et soldats irakiens avaient échangé quelques tirs avec à la clé une 15aine de morts quand même. Et c'était déjà un mouvement des troupes irakiennes dans les territoires disputés qui avait déclenché l'affrontement.
Merci beaucoup Eric Biegala. On est en ligne avec Olivier Pio qui est auteur d'un livre intitulé « Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient » aux éditions Les Petits Matins. Bonjour monsieur.
Bonjour.
L'indépendance du Kurdistan irakien est-elle selon vous inscrite dans la logique de l'histoire ?
Ah oui, je crois que ça fait aucun doute maintenant, même si Massoud Barzani avait fait de l'organisation du référendum un élément de négociation, il va faire aussi de l'agenda de cette indépendance avec les résultats du référendum, il en fera aussi un élément de négociation, mais je crois que du côté des dirigeants du PDK, donc de la région autonome, c'est clairement maintenant tracé, il faut aller vers l'indépendance. Reste à savoir ce qu'ils vont obtenir et de Bagdad, avec maintenant dans leur besace ce résultat du référendum et des autres grandes puissances.
Oui, alors les autres grandes puissances, la question évidemment de savoir qu'est-ce que pourraient décider les Turcs et les Iraniens qui se retrouvent la semaine prochaine et qui parlent de représailles.
Je crois qu'il y a un petit peu un effet de fumée qui peut nous tromper dans ce qui est en Orient. Il y a des positions qui sont hostiles. Très sceptique sur le référendum, et je crois que ces positions vont évoluer, aussi bien du côté iranien que des États-Unis ou même de la Russie, maintenant que le référendum va être acté. Le seul acteur, je crois, qui ne bougera pas, c'est Ankara, c'est la Turquie, parce que voilà, sur cette question kurde comme sur les communautés kurdes de Turquie ou de Syrie, il y a une sorte d'ADN kémaliste que le sultan Erdogan, puisqu'il est maintenant quasi sultan, ne compte pas lâcher. Alors à ceci près qu'il reste quand même un scénario derrière les déclarations violentes, verbales, c'est qu'il y a un axe Erbil-Ankara économique qui est très fort. Et moi, je pense qu'il ne faut pas écarter la possibilité de voir, devant le fait accompli, aussi Ankara entrer dans des négociations avec Erbil pour faire, pourquoi pas, de l'État kurde de demain, aussi un gendarme vis-à-vis d'autres communautés kurdes de la région.
Olivier Piau, juste un mot, parce que la ligne n'est pas excellente. Vous dites clé de voûte du Moyen-Orient pour le peuple kurde. En quelques mots, ça signifie quoi, clé de voûte?
Ça signifie que depuis un siècle, les Kurdes ont été une option mineure de toutes les négociations dans cette région à chaque fois qu'elle a été fragilisée, et que ce qui est en train de tourner, ici d'ailleurs comme d'autres régions du monde, c'est que finalement les Kurdes qui étaient sujets optionnels de l'histoire deviennent vraiment des acteurs de l'histoire, et on ne pourra pas demain, pour personne, imaginer une stratégie de reconstruction de cette région sans tenir compte des Kurdes irakiens et aussi des autres communautés kurdes.
Merci Olivier Piau. Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient, c'est l'étude de votre livre aux éditions Les Petits Matins. Gaël Brustier, peut-être un petit mot là-dessus. On parlait ce matin sur France Culture de ce référendum au Kurdistan, mais aussi de celui qui a lieu en Catalogne. Bon, ce sont deux référendums pour l'indépendance, évidemment, de nature tout à fait différente, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des deux côtés une hostilité générale à ce que ces indépendances soient proclamées. Est-ce que ça veut dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est plus tendance aujourd'hui ?
Non, je pense pas. Bon, il y a vraiment deux cas différents, parce que le cas du peuple kurde, c'est quand même quelque chose à voir avec l'Irak et avec la stabilité de l'Irak qui est mise en cause depuis une quinzaine d'années. Donc l'autonomie et le plein développement du peuple kurde, oui, mais dans un cadre fédéral, ce serait peut-être ce qui est le plus souhaitable aujourd'hui, compte tenu des impératifs de paix qui doivent avoir cours dans la région, quoi. La Catalogne, c'est autre chose. Je pense que la Catalogne, il y a aussi une part de dépit vis-à-vis de l'Espagne, l'impossibilité à changer les choses en Espagne, l'impossibilité à avoir une voie alternative qui a ravivé le nationalisme catalan dans toute sa diversité. Et il y a un gouvernement espagnol dont on voit qu'il succombe une fois de plus à ses tentations autoritaires, quoi. Ça, c'est un autre cas, à mon avis.
Gaël Brustier, on parle dans quelques minutes avec vous du désordre idéologique. C'est le titre du livre que vous publiez aux éditions du CERF. On termine cette édition avec l'annonce de la démission du président du Conseil supérieur des programmes, Michel Lussault, que nos auditeurs connaissent bien. Il accuse le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, de multiplier sans discussion ni concertation des annonces qui sont souvent, selon lui, unilatérales et parfois même idéologiques. Il s'en expliquait, Michel Lussault, ce matin sur France Inter.
Je crois que nous n'avons pas en France réglé la question de la démocratisation de l'école. Je pense en fait que c'est d'ailleurs assez curieux parce que cette démocratisation de l'école, c'est le plan Langevin-Wallon qui l'a lancé. C'est de 1947, la loi Habib dont nous parlons souvent, elle n'a fait qu'instaurer le collège unique, mais en réalité ce processus est lancé depuis très longtemps. D'un côté, ceux qui ont réussi à crédibiliser l'idée qu'une école démocratique était nécessairement une école de faible qualité, était nécessairement une école égalitariste, était nécessairement une école qui sacrifiait un certain nombre d'enseignements fondamentaux.
Ça, c'est Jean-Michel Blanquer.
C'est Jean-Michel Blanquer, c'est une bonne partie de la presse et des médias, c'est la couverture de Causeur, de Valeurs Actuelles, et pour tous ces commentateurs, la loi de refondation de l'école lancée par Vincent Peillon était en quelque sorte le parachèvement de décennies d'errements, et il fallait revenir à une école traditionnelle, l'école de la sélection. J'ai eu un débat récemment avec Alain Finkielkraut qui expliquait que la sélection, c'était la grande conquête de la République. À quel moment la sélection devait-elle se faire? Mais quasiment à l'école primaire, après les évaluations de CP. C'est une clientèle politique. Et de l'autre côté, il y a ceux qui estiment qu'on peut très bien conjuguer démocratisation et qualité. Comme en matière culturelle, on avait voulu le meilleur et même l'élite de la culture pour tous, nous pouvons vouloir le meilleur et même l'élite de la connaissance pour tous. Et je pense que cette bataille culturelle-là, elle est devant nous. Et tant que nous n'aurons pas courage d'affronter cela, eh bien, nous resterons dans la situation que nous connaissons.
C'est un réactionnaire, Jean-Michel Blanquer.
Non, je pense qu'il est, dans certaines mesures, il est sur certaines choses réactionnaire, ou plutôt il est trop complaisant par rapport à des gens qui inventent une école de la République qui n'a jamais existé. Et moi, j'aimerais bien que le modèle de l'école de la République, pardonnez-moi de le dire, ne soit pas celui de l'école jésuite. Ou alors, ça n'a vraiment pas été utile de développer l'école de la République depuis un siècle et demi. L'école de la République, c'est une école d'émancipation. Il y a aujourd'hui le désir d'un certain nombre de groupes sociaux de faire de l'école une réunion d'happy few ou de certaines écoles une réunion d'Apifio. Excusez-moi, c'est peut-être très idéaliste, mais moi je ne m'y résous pas, et c'est cela que je veux dire en partant, parce que si je pars et que ça permet de faire passer ce message, alors mon départ a été utile à quelque chose.
Michel Lussault donc s'expliquait avec Nicolas Demorand, Gaël Brustier, vous êtes dans le désordre idéologique, vous vous placez dans quel camp ?
Non, je crois qu'il y a de la place pour tout, c'est-à-dire que on s'aperçoit quand même qu'un certain nombre d'enfants ont 200 mots de vocabulaire, quand d'autres au même âge en ont beaucoup plus, et que le rôle de l'école c'est de combler cet écart. Et à un autre âge, à l'adolescence, entre 16 et 18 ans, on s'aperçoit que vous avez une distorsion entre les milieux d'un point de vue d'accès à la culture qui est énorme. Donc vous avez deux moments d'action qui correspondent pas vraiment au cadre idéologique, au classage idéologique de Monsieur Lussault à l'instant à l'antenne, ou même de Causeur dans le camp d'en face. La politique scolaire, ça doit être effectivement l'excellence pour tous, mais tout le monde se réclame du plan Langevin-Wallon, mais je ne suis pas persuadé que tout le monde ait la même interprétation et tout le monde l'ait lu.
Voilà, je vais vous annoncer encore une petite nouvelle, une étude de l'agence sanitaire Santé publique France qui annonce que l'inactivité physique et la sédentarité liées à l'usage massif des écrans gagnent du terrain, c'est pas surprenant, dans la population française depuis 2006. La durée quotidienne moyenne de temps passé devant les écrans chez les adultes a augmenté de 53% depuis 2006, donc 44% pour les hommes, 66% chez les femmes. Ce temps donc devant les écrans est passé en moyenne de 3h10 à 5h07 par jour. Pour les 6-10 ans aussi, le temps augmente. Et chez les enfants, quel que soit l'âge, heureusement, il nous reste encore la radio. Un temps encore généralement nuageux avec quelques ondées. Le soleil domine sur la vallée du Rhône et le sud-est. Température de 7 à 26 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.